Et oui, vous avez reconnu notre générique. Il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andriy Gavrilov au piano. Vendredi Théâtre, l'émission sur Divergence FM qui couvre ou qui essaye de couvrir l'actualité théâtrale sur Montpellier. Et je suis avec l'inénarrable Tito Livio. Bonjour Tito.
Bonjour.
Et nous allons parler d'un premier spectacle que nous avons vu ensemble hier soir, un spectacle assez jubilatoire. On va vous en parler tout de suite. Il s'agit de Kalachnikov qui est au Théâtre des 13 Vents actuellement. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Stéphane Guérin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur.
Oui, jusqu'ici.
Et Yann de Monternau qui Bonjour. Joue donc le rôle du père. Bonjour.
Exactement.
Alors Kalachnikov, de quoi s'agit-il? C'est une pièce qui nous parle de la famille.
Oui, c'est une pièce qui parle de la famille et du désastre et des drames familiaux. C'est une famille un peu décalée, un peu suspendue. Voilà.
Alors il y a quatre personnages. Il y a donc le père.
Oui.
Le père qui est ici présent. La mère, le fils.
L'enfant, qu'on appelle l'enfant dans la pièce.
Qui lui revient d'Afghanistan où il était soldat.
Voilà, c'est ça.
Et un troisième personnage qui s'appelle le trans.
Voilà.
C'est quoi ce quatrième personnage, pardon?
Alors le trans joue le rôle du cœur antique puisque la pièce est librement inspirée du mythe d'Oedipe. Mm-hmm. Et moi, je voulais absolument que ce cœur soit incarné par un corps mutant, voilà, par un corps parlant.
C'est Annick Le Goff.
C'est Annick Le Goff, la merveilleuse Annick Le Goff.
Alors, ça nous fait très plaisir de recevoir un auteur. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion de recevoir des auteurs à l'émission, un auteur vivant.
Encore vivant.
C'est Pierre Note, qui est le metteur en scène, qui le signalait hier au début de la pièce. Donc, je disais que nous avons vu la pièce hier avec Tito. Celui qui riait beaucoup et très fort, c'était Tito.
On sait qui, maintenant on voit qui c'est.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes impressions, Tito?
Déjà, c'est très bien écrit. Il y a un style. C'est très drôle. C'est que des banalités, ce que je raconte. Mais voilà, et on retient des répliques. Donc ça, on revient au bon vieux théâtre de répliques. Il y a des clins d'œil que j'ai trouvé très amusants à toutes sortes de choses. Le canapé, au théâtre canapé, hein, aux comédies de canapé. Il y a le roi Lear, enfin Hamlet, il y a toutes sortes de choses aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Richard III.
Oui, Richard III, évidemment. Et après, ça parle, du moins, à tous ceux qui ont une famille clanique et une mère dévoratrice et un père qui laisse faire. Je crois que se sentent concernés. J'ai retenu des répliques, je répète, parce que ça, c'est un bonheur. Hein, qu'on ne trouve plus que dans les pièces classiques du 19e.
C'est vrai qu'après le spectacle, tu t'es empressé d'essayer de noter quelques répliques qui t'avaient...
J'ai oublié une, ça... Oh zut, bon, c'est grave. Ah, je ne me souviens plus, elle m'a effacé de ma mémoire.
Alors donc, Kalachnikov, nous disions qu'il s'agit d'une pièce qui parle de la famille. Donc il y a trois aspects un petit peu dans la pièce. Il y a l'aspect vie domestique de cette famille. Mmh. Il y a l'aspect tragédie antique. Donc il s'agit de Oedipe Roy, ouais, référence
oui,
à Oedipe
Roy.
Et il y a la référence télévisuelle qui est omniprésente.
Oui, il y a les références télévisuelles et l'accumulation de marques. Voilà, qui correspond pour moi à une langue faite de détritus, en fait, puisqu'on nous assène toute la journée des marques. Voilà, on allume la télévision, on sort dans la rue, on ouvre un journal, c'est de la publicité absolument partout qui nous dévore et qui nous tue. Enfin, moi, qui me tue? Enfin, ça n'engage que moi, je ne peux parler qu'en nom propre. Évidemment.
Et comment s'est passée la rencontre avec Pierre Note? Parce qu'on l'avait reçu il y a quelques années ici pour un autre spectacle. C'est un sacré personnage.
Oui, c'est, c'est un sacré personnage. Pierre, je le connais depuis quelques années maintenant. Et puis je l'aime beaucoup, je l'aime infiniment, je l'aime comme un frère. Voilà. presque.
C'est un sacré tempérament.
Oui, 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 mais moi j'aime les tempéraments comme ça.
Je vais me tourner vers Yann maintenant. Donc vous jouez le père. Comment ça s'est passé le travail avec Père Note ?
Avec Pierre, c'était un travail passionnant parce qu'en fait il avait des idées extrêmement précises sur ce qu'il voulait obtenir de nous. Nous, les comédiens, les quatre comédiens, on était beaucoup dans la... Enfin, on a été très, très surpris, très aussi dans... Peut-être à certains moments dans le refus, parce que incompréhension de l'extrême dans lequel il voulait nous faire aller. C'est-à-dire qu'il voulait qu'on soit dans une espèce de tragédie extrêmement retenue, extrêmement sanglée à notre canapé, puisque Tito
parlait bien devant le micro
il y a un instant. Et bien que ce soit une pièce à canapé, c'est pas du tout une pièce de boulevard.
Non, pas du tout.
En fait, c'est aussi parce qu'il nous a maintenus dans ce canapé, dans cette violence, qu'il a réussi, je crois, à tirer la comédie de cette pièce, ouais. Et qui est l'essence de cette pièce, quoi. C'est vraiment une comédie dans la tragédie ou une tragédie dans la comédie.
Tito, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, puisqu'il y a des références télévisuelles, il y a énormément. Alors, des trucs absolument immondes. Mais moi, je me souviens de quelque chose, une très bonne comédie qu'il y avait à une époque. Une époque où je regardais très peu la télévision, parce que dans les années 80, c'était vraiment nul. Mais il y avait une série américaine qui était très drôle, qui s'appelait en français « Marier deux enfants », avec de très grands comédiens américains, extrêmement bien écrits, et qui me fait penser tout d'un coup en flash comme ça au thème de la pièce, en fait. Une famille comme ça, qui passe sa journée, dont le père et la mère passent la journée assis dans la série américaine, surtout la mère, évidemment, sur un canapé, et avec des... et qui se disloquent comme ça, toujours, pour des aléas qui n'ont rien d'extraordinaire, des aléas de la vie, quoi, de quotidien. Donc, attends, je me lève, je vais manger mon yaourt, etc. Bon, bah, des trucs comme ça.
Et puis presque toujours la main dans le slip aussi. Enfin, le père avait toujours la main dans le slip et c'est presque ce que Pierre a voulu.
Ben c'est un peu ça.
Quand oui, c'est
souvent Pierre la main dans le slip. Ouais. Si tu pouvais l'enlever.
On va revenir un bouton de fièvre en ce moment.
On va revenir un petit peu sur les personnages. Donc sur le père. Le père, lui, est au chômage. Il a perdu son emploi.
Ouais.
La mère est mère au foyer, assez frustrée.
Ouais.
Et donc le fils, donc l'enfant revient d'Afghanistan. Et l'un des grands drames de leur vie, c'est qu'ils n'ont plus la télé. Ils n'ont plus les moyens d'avoir la télé.
Oui, oui, ils n'ont plus la télé parce que tous les fournisseurs d'accès leur ont coupé Internet et voilà, ils n'ont pas payé les factures. Et puis c'est vrai que la télé, c'est un membre, c'est une troisième personne souvent dans le foyer, quoi. Ça a été considéré longtemps comme une fenêtre, la télévision, alors que pour moi, c'est l'inverse d'une fenêtre, quoi. C'est un miroir qui nous renvoie plutôt une image assez désastreuse.
C'est une espèce de trou noir dans lequel on se perd.
Oui, oui, oui. Je me souviens que ma grand-mère disait que c'était une boîte à mensonges. Ça me plaisait beaucoup, cette expression.
C'est un peu comme une urne.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelques répliques qui vous viennent à l'esprit pour qu'on ait un petit peu l'idée du verbe ?
Enfin, c'est très prétentieux. j'aime beaucoup ce que j'écris, déjà. Vraiment, je trouve ça formidable. Non, mais par exemple, il y a une réplique que l'enfant dit à la première dame. Il lui dit « Tu ressembles à Grace Kelly après son accident. »
Ah oui, celui-là est extraordinaire.
Et pour faire écho à ce que tu viens de dire, je dois dire que je détesterais jouer une pièce que l'auteur lui-même déteste. Donc je préfère que tu aimes ce que tu écris. Moi, il y a une phrase que j'adore dire, c'est « Dans une prochaine vie, moi, je veux être zoophile.
» Moi, il y en a une, autant la dire, de mémoire, c'est « Nous avons beaucoup progressé, mais nos idées sont restées les mêmes. »
Nos idées n'évoluent pas.
N'évoluent pas. Une autre peut-être, si vous en avez une autre réplique.
Je trouve que je ressemble à MacGyver, moi, ces derniers temps.
Moi, j'aime beaucoup la diction de, la, de l'actrice qui joue la mère, c'est Raphaëline Goupillot. Je ne me souviens plus, je suis désolé, où je l'ai vue, mais je l'ai déjà vue plusieurs fois. Ce qui veut, d'ailleurs, c'est un compliment parce que je me souviens d'elle et pas forcément du titre des choses, mais je me souviens très bien parce que je trouve qu'elle a vraiment une diction extraordinaire.
Ah ouais, elle est magnifique.
Ouais.
Une immense comédienne.
C'est une immense comédienne avec une voix sublime. Et c'est vrai qu'elle peut tout jouer avec une voix qui est unique et qui semble être la voix d'un enfant, d'un petit animal.
C'est une voix inimitable. Table.
Ouais.
Et puisqu'on est dans une ville gay-friendly, j'ai horreur de ce terme, j'ai horreur des anglicismes qui ne veulent rien dire. Autant marketing, j'accepte, puisque ça n'existe pas en français, autant gay-friendly, je trouve que ça ne veut rien dire. Mais c'est, bon, passons. Mais je me souviens que Cyril Touvenat avait eu beaucoup de courage à une époque parce qu'il était engagé, militant, etc. Et j'ai cru comprendre que ça lui avait porté tort. J'aimerais bien le rappeler que c'est quelqu'un qui a du courage dans la vie et que c'est bon dans notre Montpellier. Donc, gay-friendly.
Oui, c'est très rare, le courage. C'est très rare. Et Cyril Touvenin qui joue l'enfant dans la pièce.
Voilà. Et il y a Annick Le Goff qui est fabuleuse, qu'on avait reçue ici, je crois, c'était pour Le Garçon sort de l'ombre, il y a quelque temps.
Ah oui, effectivement, oui, elle a joué au 13 vents aussi.
Et qui a aussi une voix absolue.
Elle a une voix fabuleuse.
Et qui a une liberté dans ce rôle absolu, c'est-à-dire qu'elle assure, enfin tout le monde, tous les comédiens assument la parole de l'auteur, mais elle est géniale parce qu'elle joue donc le rôle du trans qui est à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce, et elle se permet, elle peut tout se permettre, tout, elle fait des ruptures,
Elle a un petit peu le rôle du cœur grec de temps en temps.
C'est ça.
De temps en temps, elle joue le sphinx. Ah, on a un peu l'impression aussi de temps en temps qu'elle fait le fantôme d'Elseneur dans Hamlet. Donc c'est un rôle très riche. Elle a dû tout à fait jubiler.
J'espère.
Je crois qu'elle jubile
en
permanence. C'est vrai que son personnage est aussi une espèce de marionnettiste qui nous,
manipule
en permanence. Quoi.
Et quelles sont les réactions du public que vous avez pu avoir ? Hier, je sais qu'il y avait une rencontre avec le public. Qu'est-ce que vous avez comme écho du spectacle ?
Ce qui est très, très surprenant et très marquant, en tout cas, c'est que le public rit de notre douleur, quoi. De la violence de ce qu'on vit et que nous, on n'est pas du tout à la recherche de ce rire. Donc, moi, même, ça a été un supplément de violence pendant ces premières représentations, parce que j'étais presque révolté que le public rit du malheur que j'étais en train de vivre. Et c'est vrai qu'on a eu des... Hier, on a discuté avec le public qui était... On nous parle beaucoup, je crois, du rire libérateur, quoi, cette espèce de soupape.
Les gens ont besoin de ça, bien sûr, mais sinon il faut rire, c'est insoutenable.
Ouais.
Moi, il y a une chose qui m'intéresse. Par exemple, ça rompt avec une tradition qui est très française depuis un certain temps, surtout depuis la Nouvelle Vague, de nous parler de nous-mêmes, de nous montrer nous-mêmes et des choses comme ça. Et qui m'ennuie profondément parce que finalement, comme nous sommes tous de la classe moyenne, on finit par tous parler de la classe moyenne. Je ne suis pas auteur du tout, mais c'est très ça. Hein. Donc, les films tournent autour de la petite bourgeoisie parisienne, plus ou moins libérée, plus ou moins... Et les pièces aussi, souvent, ça se passe dans la bourgeoisie moyenne-haute. Et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une question du choix des personnages, parce que ce n'est pas ça. C'est au-delà de la classe sociale des personnages, c'est la façon de traiter les choses. Ça, moi, je trouve que ça manque en France, justement, cette façon de parler de nous, mais sans faire miroir, forcément. C'est-à-dire en faisant un miroir, mais un miroir déformant, pour qu'on puisse voir plus clairement nous-mêmes, et pas aller au cinéma, au théâtre, pour se voir soi-même, Bah voilà, on revient au 19e, quoi, aux comédies du 19e, où quand, je crois que c'est Feydeau qui disait, ou Labiche, mais peu importe, parce que tous les deux auraient pu dire la même chose. Comment est-ce que, à la question, comment est-ce que vous pouvez représenter votre public sur scène et le critiquer de cette façon, le ridiculiser de cette façon? Il répondait, mais on ne se reconnaît jamais. Donc c'est vrai que peut-être que les gens rient parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Mais quelque part, si on analyse bien, c'est de nous qu'on parle là. Moi, j'ai été très conscient qu'on parlait de ma famille, même si je ne suis pas du tout de la classe sociale à laquelle appartiennent les personnages. Mais ça parle de cette relation avec la famille, avec le père, avec la mère, avec cette incommunicabilité provoquée par la vie où on ne parle plus, on regarde la télé. L'abêtissement aussi, les gens qui n'ont aucun point d'intérêt. Là, c'est pas mon cas personnel, mais je connais tellement de gens comme ça qui ne lisent jamais, qui vont jamais voir un bon film, qui à la télé ne regardent que des conneries. Moi, je regarde la télé, mais je regarde quand il y a un bon film. S'il y a un bon film, moi je regarde. Je regarde jamais les programmes dits de divertissement parce que ça, c'est alors que c'est ce que ces gens-là regardent. Ils regarderont certainement pas Mad Men, mais ils regarderont Les Feux de l'amour, quoi. Mais malgré tout, on se retrouve. Moi, je me retrouve quand même dans ce personnage, dans ces gens, même s'ils regardent Les Feux de l'amour, alors que moi, je regarde Mad Men.
Mais c'est très, très bien, Les Feux de l'amour.
Et ça, c'est très intéressant.
C'est très reposant.
C'est très intéressant, voilà.
Mais je crois qu'à mon avis, on s'y retrouve aussi, parce que c'est une pièce qui parle avant tout d'amour et de haine entre les personnages. Ouais, oui. D'ailleurs, Stéphane hier disait une chose que j'ai trouvée très belle après la pièce. Il disait à des spectateurs que les personnages, quand ils se sont réellement aimés, vraiment aimés, finalement ne peuvent plus se désaimer. Ils sont en quelque sorte enchaînés, enchaînés par cet ancien
lien, comme un lien secret. Quoi.
Ouais.
Et ce qui est curieux aussi, c'est que chacun des personnages s'imagine être quelqu'un d'autre. Le père s'imagine un peu être un trader, la mère s'imagine être la première dame, le fils, il est un petit peu dans le rôle de Richard III à un moment, Richard III, du jeune Gloucester.
Oui, ils fantasment absolument leur vie. On peut voir ça comme un fantasme, comme un cauchemar, ça dépend de quel côté on se place, de quel on se trouve.
Je voudrais revenir sur le titre Kalachnikov. Vous n'avez pas eu de réaction autour de ce titre Kalachnikov, parce que c'est un titre assez violent.
Oui, bien sûr, c'est un titre assez violent, mais c'est beaucoup moins violent que de sortir dans la rue ou d'ouvrir un journal et
regarder le journal télévisé.
Voilà, par exemple. Oui, Kalachnikov, j'ai délibérément Kalachnikov. Normalement, ça s'écrit avec un C.
Mm-hmm.
Voilà. Là, moi, j'ai ajouté un S parce que je ne fais pas l'apologie du crime. Et je ne veux pas être assimilé aux trafiquants d'armes. Voilà, donc j'ai créé ma propre Kalachnikov.
Et puis quand Marc Lavoine dit elle a les yeux revolver,
déjà.
On ne considère pas comme un meurtrier.
On va rappeler que le spectacle s'appelle Kalachnikov. Tito, tu as un conseil à donner pour eux?
Bah, allez-y parce que c'est le dernier soir.
Voilà,
sinon,
c'est le dernier soir ce soir. Et on a passé un très 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 bon moment et on a découvert une écriture et c'était vraiment un très très bon spectacle. Oui. Donc c'est ce soir au Théâtre des 13 Vents, ça s'appelle Kalachnikov, c'est à 20h30
ce soir. À 20h30, donc dans une mise en scène de Pierre Note avec Yann de Monterneau, Raphaëline Goupillot, Annick Le Goff, Cyril Touvenin. Voilà, et assisté par Claire Fretel.
Et merveilleusement écrite par Stéphane Guérin.
Absolument. Merci. Alors j'avais cru remarquer hier que dans la pièce il y avait une petite pause musicale, à un moment un petit extrait de Purcell, j'ai cru reconnaître
moment. Oui, il me semble, oui.
Alors j'ai pas retrouvé exactement le morceau, mais j'ai choisi un extrait de L'Ode pour l'anniversaire de la Reine Marie de Purcell. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés
Merci
pour ce
vous.
Premier plateau.
Merci.
93.9.
Et on peut commencer à discuter et lancer l'enregistrement.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2.
Non, mais ce qui est important, c'est ça.
Eh ben, allons-y alors.
Très bien, bon, on va commencer.
Si la culture de masse est une culture qui a été produite et développée à travers ces masses médias, je le répète, presse, radio, cinéma, télévision.
Et je voudrais essayer de rendre les choses le plus possible justement d'une façon sonore.
Culture produite massivement, car en effet, c'est massivement qu'une émission radio est écoutée dans des millions de foyers.
Pas trop d'explications.
Mais le principe en radio, c'est de faire parler les gens.
Cette culture de masse, bien que nous en soyons imbibés, bien qu'il suffit d'ouvrir un bouton de radio pour en entendre les échos sous forme d'onomatopée comme yé yé.
L'idée, c'est que c'est qu'on parle et que tu me répondes comme si je te posais pas de questions.
Divergence FM. Yeah 93.9.
Divergence FM 93.9, vous êtes toujours sur l'émission Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de l'actualité théâtrale sur Montpellier. Christopher nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Christopher.
Bonjour.
Nous avons toujours Étienne à la technique, j'oublie toujours de le citer. Bonjour Étienne à la technique. Et nous allons parler maintenant d'un autre spectacle que moi je n'ai pas encore vu, mais que Christopher a vu. C'est un spectacle qui se déroule au Carré Rondelet, un spectacle qui s'appelle Rotterdam la nuit. Donc j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Alexandra Play, bonjour.
Oui, bonjour.
Je n'ai pas écorché votre nom.
Oh, il y a plusieurs prononciations, Play, Spay, comme vous voulez. On est libre.
Donc vous êtes la metteuse en scène.
Oui, c'est ça.
Et nous avons également Axel Abella, bonjour.
Bonjour.
Et Silgan Gren.
Bonjour.
Alors donc, Rotterdam la nuit, c'est une pièce de Sharif Gattas.
C'est ça.
Je l'ai bien prononcé.
Oui.
Alors Christopher, toi tu as vu la pièce, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Oui, je suis allé voir la pièce hier. La pièce avait lieu au Carré Rondelet. Donc, Sharif Gattas, je ne connais pas. Donc, je suis allé.
C'est un auteur franco-libanais, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est
pas.
Ça. Franco-libanais qui est arrivé très jeune en France, qui travaille sur Paris et sur Beyrouth.
La pièce, trois personnages, trois sœurs qui se retrouvent après le décès de leur mère. Et c'est un huis clos qui dure à peu près d'une heure. Je pense que je résume.
Alors, une petite correction, en fait, ouais. La mère n'est pas encore morte. En fait, elle, c'est vrai qu'il n'y a pas d'explicatif dans les paroles, c'est vraiment tout à deviner. Et en fait, elle se retrouve à Rotterdam parce que leur mère va se faire euthanasier donc aux Pays-Bas. Et donc, la mère meurt à la fin de la pièce.
Oui, exactement, c'était une des questions que je me posais, où j'étais un peu dans le flou, c'était sur ces circonstances-là. La première chose quand je rentre dans la salle, c'est la disposition de la scène qui me saute aux yeux, qui n'est pas classique, puisqu'on a une scène organisée en trifrontale, qui donne un aspect plutôt presque à 360 degrés. Pourquoi ce choix-là?
Parce qu'en fait, ce qui m'a frappé à la lecture de cette pièce, c'est que les personnages, les trois personnages offrent vraiment trois points de vue différents et qu'elles s'éclairent mutuellement, totalement différents, et ça change. En fait, l'image qu'on a des personnages change au fur et à mesure de la pièce, même à la lecture. Et je trouvais que c'était vraiment une pièce qui parlait justement de la difficulté de dépasser son point de vue individuel. Et j'ai voulu mettre en fait les spectateurs dans la même situation que les personnages, c'est-à-dire voir la pièce de leur point de vue et qui n'est pas forcément le même que le voisin ou la personne d'en face.
Effectivement, c'est certes un huis clos, mais qui offre paradoxalement beaucoup de regards extérieurs malgré le fait que ça soit un environnement fermé. Ça offre plusieurs perspectives, à la fois le fait qu'il y ait trois sœurs, à la fois que les publics soient disposés à trois endroits différents, trois regards, les miroirs aussi face à chacune des sœurs, ça montre différents regards proposés. Et on voit les trois sœurs avec des caractères, des expériences totalement différentes. Peut-être vous pouvez parler un peu de chacune des sœurs, leur caractère. Je vois qu'elles sont totalement différentes les unes des autres.
Oui, alors je me permets de commencer en tant que personnage de sœur aînée. Oui. Myre, Donc oui, on est trois sœurs différentes, très différentes. Donc deux vraies sœurs et une demi-sœur. Donc il y a trois personnages, Myre, la sœur aînée, Rita, la petite sœur, et au milieu, Diane, qui est donc la demi-sœur. Voilà.
Même presque pas la demi-sœur, en fait, c'est une pièce rapportée, c'est une famille recomposée.
Oui, voilà, famille recomposée.
Elles sont toutes de la même mère.
Non.
Non, voilà, c'est bien ce que j'avais compris. Oui. J'étais dans le doute. Donc, elles se retrouvent pour prendre une décision.
Alors, elles se retrouvent, en fait, la décision a été prise. Le dossier donc, d'euthanasie de la mère a été déposé. Et elles attendent en fait la mort de leur mère, quoi. Alors on pourrait penser que c'est une pièce qui parle de la mort, du rapport à la mort de la mère. En fait, pas du tout. Elles ont tellement des relations problématiques entre elles que toute la pièce ne tourne qu'autour de leur relation fraternelle, oui. Et de ce nœud-là qui les tient toutes les trois ensemble.
J'ai un peu l'impression, moi j'ai pas encore vu la pièce, qu'entre ces trois sœurs, il y a eu beaucoup de non-dits, qu'il y a un silence, et en fait c'est sur ce qui n'est pas dit que tourne la pièce, ce qui ne peut pas se dire.
Effectivement, il y a vraiment le silence a beaucoup d'importance dans cette pièce. C'est vraiment quelque chose qui rythme la pièce. Il y a énormément de points de suspension dans le texte, beaucoup de silence. Il y a vraiment un jeu entre la parole qui se lâche, qui va des fois trop loin, le mot de trop, et également ce silence, cette difficulté en fait de communication entre elles, et à la fois de volonté de se comprendre et en même temps d'échec qui se renouvelle un peu tout au long de la pièce.
On parlait de huis clos tout à l'heure. Moi, je pense tout de suite à la pièce de Sartre. Est-ce qu'il y a un rapport l'enfer, c'est les autres et...
Ah oui, alors oui, effectivement, il y a un rapport, mais ça va presque à l'encontre de la parole de Sartre, je trouve, parce qu'il dit que l'enfer, c'est les autres. Moi, je nuancerais en disant que l'enfer, c'est le regard des autres. Mais la pièce a tendance à plutôt montrer qu'en fait, l'enfer, c'est soi-même. C'est l'ego, c'est nous-mêmes qui nous empêchons d'être en empathie avec l'autre et d'être capable d'être attentif à l'autre. Tellement on est dans notre propre histoire, enfermé dans notre propre point de vue.
Et on pourrait peut-être parler un petit peu de l'auteur que moi je ne connais pas du tout, Sharif Gattas. Comment est-ce que vous avez découvert cette pièce? Parlez-nous un petit peu de cet auteur.
Alors cet auteur, je l'ai découvert un peu par hasard parce qu'on m'a sollicité pour faire une lecture publique de cette pièce justement. Et j'ai découvert donc la pièce et l'auteur en même temps. Donc c'est un auteur qui est arrivé, comme je l'ai dit tout à l'heure, très assez jeune en France, qui est à la fois auteur, comédien et metteur en scène. Il a mis en scène toutes ses pièces qui ont toutes été publiées chez Alna Éditeur. Et en fait, Rotterdam la nuit est la seule pièce qui n'est pas mise en scène lui-même. Et d'ailleurs, nous avons fait la première création de la pièce qui a été publiée en 2009.
Et vous avez rencontré l'auteur ?
Oui, on correspond régulièrement. De toute façon, je lui ai demandé son accord. Il a été le premier au courant de la proposition de mise en scène que j'avais en tête, et il est venu à la création l'année dernière, en mai 2012, assister à la première, quoi. Donc il est très content de...
Moi, je vais revenir sur le titre. Pourquoi Rotterdam? Pourquoi est-ce que ça se passe à Rotterdam?
Ben, c'est une question de législation. C'est une ville qui se passe dans un pays où l'euthanasie est permis, donc au niveau de la fiction, c'était possible...
On va peut-être vous demander si c'est possible d'avoir un petit exprès pour avoir une idée du texte. Si c'est possible.
C'est possible.
Je sais que c'est un exercice périlleux. Il faut bien parler devant le micro. C'est vrai que c'est très différent de parler sur les planches et devant un micro.
Allô, oui? Bien, ça s'est passé. Bien, il m'a dit ce qu'il t'a dit à toi, c'est-à-dire, voilà, intéressé. Très intéressé par votre livre. J'ai dit que j'allais réfléchir et en discuter avec toi dès mon retour et que tu le contacterais d'ici peu pour les modalités, etc. Oui, elle est à l'hôpital. Ma sœur s'est occupée de tout. On attend. Bien sûr, je t'appelle. Tu es gentille. Au revoir, Camille. c'était Camille. Elle aussi est inquiète. Enfin, inquiète que tout se passe bien.
On parle d'une personne normalement constituée ?
Complètement.
On parle de ta mère aussi ?
Complètement.
Pas de la mère de Camille ?
Elle t'embrasse.
Elle est gentille de s'inquiéter. Gentille et normale.
Elle vous embrasse, Diane et toi. La famille, quoi.
Sors de cette chambre.
Tu ne m'offres rien à boire ?
Non.
Comment, non ?
Sors, Rita.
C'est un nom que tu vas regretter. C'est un nom radical. Réfléchis. Debout.
Tu m'énerves.
Est-ce un nom debout ou un nom assis ?
Ta gueule !
Un nom couché. Je ne sais pas, je me pose des questions.
On ne s'est pas vu depuis plus d'un an.
Depuis l'enterrement.
Depuis plus d'un an. Et tu arrives et tu dis que je suis pâle. Et avec ton comportement, cet air que tu as, que tu prends... Cet air que tu as et que tu prends quand bon te semble, que tu empruntes exprès quand tu t'adresses à moi.
Bravo, bravo et merci pour cet extrait. Comme je disais, c'est un exercice difficile. C'est très différent de dire un texte sur un plateau et de le dire sur un micro. Il y a des choses qui changent complètement. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais... Christopher, tu avais une question, je crois.
Je voulais revenir sur quelque chose qui m'a frappé à la fois au niveau de la mise en scène. Et c'est l'aspect que tout se passe par trois, le chiffre 3. On a trois sœurs, on a trois objets un peu principaux, le pistolet, la corde, le téléphone qui revient souvent, les trois chaises et trois miroirs. On a trois regards du public, trois subjectivités. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé particulièrement ?
Bon, en fait, les trois sièges, si on avait les moyens, n'en formeraient qu'un. Parce qu'en fait, j'ai voulu reprendre un meuble qui a été créé à l'époque de Napoléon, qui s'appelle un indiscret, qui justement a la même disposition, c'est-à-dire trois sièges ordonnés autour d'un axe et qui ont des orientations différentes.
Avec les personnages qui se tournent le dos.
Oui, plus ou moins.
Ouais, oui.
Et donc j'ai voulu reprendre ce principe-là parce que pour moi, c'était vraiment un objet qui pouvait symboliser le rendez-vous, les retrouvailles. Et en même temps, offrir justement symboliquement ce côté... on se retrouve, mais en même temps, physiquement. Mais en même temps, au niveau du regard, il n'y a pas de retrouvailles. Il n'y a pas de véritable écoute et de nouvelles rencontres, quoi. Et donc c'est vraiment, j'ai vraiment voulu organiser la scène comme une espèce d'espace symbolique qui ne représente absolument pas une chambre d'hôtel ni quoi que ce soit, mais vraiment l'espace du rendez-vous. Après, les trois miroirs, c'était le rapport à soi. C'était aussi pour créer esthétiquement des cadrages. Voilà, du coup, on se retrouve des fois à capter presque des portraits vivants selon la place où on se trouve. Donc, c'est très aléatoire. C'est vraiment des petites pépites pour un ou deux spectateurs selon l'orientation. Oui, après, déjà dans les didascalies, il y avait ces accessoires importants, donc toujours plus ou moins synonymes de la mort pour les deux personnages qui sont toujours à deux doigts de se suicider. Enfin, on ne sait jamais trop si c'est sérieux ou pas. Donc la corde pour Rita, le pistolet pour Mir, ça fait un peu le Cluedo, en fait. la coupe que j'ai suspendue au-dessus de la même manière... au-dessus du siège de Diane, parce qu'elle est dans le mariage. Hein, elle vient pour annoncer son mariage. Donc. Et le téléphone qui est effectivement central, puisqu'elles attendent ce rendez-vous, elles attendent cette nouvelle, la nouvelle de la mort de leur mère. Quoi. Donc c'est ça qui justifie ce point de rencontre.
Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'elles se rencontrent, elles se tournent le dos et que c'est cette confrontation entre... ce qu'elles sont devenues leur sert plutôt de réflexion sur leur propre vie. J'ai l'impression qu'elles se posent les questions de où est-ce qu'elles en sont. Et j'ai cette impression qu'elles sont pas très heureuses.
Ni les unes ni les autres, effectivement. Il y a un petit peu toujours cet aller-retour, ce va-et-vient entre le regard de l'autre et le regard qu'on porte sur soi-même. Que j'ai essayé de traduire aussi même dans les déplacements, symboliquement, matériellement, sur le plateau, quoi. Oui, c'est un moment de remise en question, de, comme souvent quand on se retrouve, quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on a été très proches, quoi.
J'ai trouvé que, c'était très bien mis en scène, on ressentait vraiment ça, et j'ai beaucoup apprécié le jeu des comédiennes, où vous étiez très convaincantes chacune dans votre rôle. On était vraiment vous étiez vraiment dans vos personnages, c'était très bien interprété.
Moi, je rappelle que je n'ai pas vu la pièce, donc je vais poser peut-être une question de naïf. Quand j'ai lu un petit peu le résumé, moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une référence aux trois sœurs de Tchekhov ?
De ma part, non, mais peut-être de la part de l'auteur.
Il me semble.
Ouais, oui, sans doute.
Et vous avez eu des retours du public, des réactions ?
Alors, il y a eu des... Oui, globalement, c'est très, très positif. Moi, je suis curieuse de voir, en fait, ce que vont me dire ceux qui l'ont vu l'année dernière et ceux qui l'ont vu cette année, qui n'étaient pas à la même place et qui n'ont, du coup, pas été aussi proches du même personnage, en fait. Voir si ça a changé. Et visiblement, ça a changé leur regard sur les personnages. Et c'est justement ce que je souhaitais. Donc, je vais aller les interviewer aussi, moi, pour savoir quel regard, quelle image ils ont eu des personnages selon la place qu'ils occupaient dans le public, quoi.
Et vous avez eu des articles dans la presse, je crois, aussi ?
Oui, deux, hier, dans... Ça y est, je vais avoir un trou. Direct
Montpellier Plus,
et puis Jeudi Tout Montpellier.
Ah, Jeudi Tout, d'accord. Parce que c'est pas souvent qu'il y a des journalistes qui viennent dans les petits théâtres, et on le signale toujours à chaque fois. Le Carré Rondelet.
Il y avait du monde hier.
Il y avait du monde. Et puis, signaler l'excellente programmation du Carré Rondelet. Christopher, est-ce que tu peux nous rappeler les dates du spectacle ? Je rappelle que le spectacle s'appelle Rotterdam la nuit, que ça se passe au Carré Rondelet. C'est jusqu'à quand et à quelle heure ?
Il se joue jusque samedi à 20h30. Et le dimanche ?
À 18h.
18h, voilà.
Voilà, le spectacle donc s'appelle Rotterdam la nuit au Carré Rondelet. Merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau. Et merci, on va faire une petite pause avec India Song, Carlo D'Alessio, avec une version piano.
avec la mer du Nord. Le long des golfes clairs. Et des vagues dodues. Pour arrêter les vagues. Et des poissons volants, volants comme des goélands. Et des planctons. En veux-tu, en voilà. Et des saumons rouges surgissant de l'au-delà. Et les méduses amères. Et les algues pourpres et les goémons d'hiver. Rien, non, rien ne m'empêchera de citer ton nom.
Divergence FM.
Divergence FM, le 93.9, avec les jingles maison de Divergence. Vous êtes toujours sur l'émission Vendredi Théâtre. Vendredi Théâtre, l'émission donc qui parle de théâtre, l'actualité théâtrale sur Montpellier. Et là, je reçois quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis longtemps à l'antenne et qui va être de l'autre côté de la barrière, qui a été chroniqueur et qui là va nous présenter un spectacle. Il s'agit de Robin Charbois. Bonjour.
Bonjour Florent, bonjour tout le monde.
Alors, tu vas nous parler d'un spectacle dont tu es intervenant, qui va se dérouler à la Vignette, qui s'appelle « D'autres nous garderons en mémoire ». Et tu n'es pas venu seul.
Non,
est-ce que tu peux nous présenter tes invités?
Bien sûr. Alors les comédiens, il y a Mickey qui sont avec moi. Il y a Lily Dupuis. Bonjour Lily.
Bonjour.
Il y a Paola Juppé.
Juté.
Juté.
Bonjour.
Ainsi que Adina Alexandru.
Bonjour.
Et on fait un message à Mehdi Graoudi, qui est notre cinquième ami et comédien, et qui revient de Strasbourg et qui sera là avec nous cet après-midi.
Voilà, donc c'est un spectacle d'autres nous garderons en mémoire qui aura lieu à la Vignette le 31 mai. C'est un spectacle estudiantin, comme je disais tout à l'heure, donc c'est un travail d'étudiant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit?
Alors déjà, c'est du théâtre universitaire. Donc le théâtre universitaire, c'est déjà bien particulier. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui est ouvert à toutes les licences. Donc c'est pas uniquement des gens de théâtre. Il y a des gens qui seront comme moi en littérature, en histoire. Il y a des amis qui sont en psychologie, en économie. Donc c'est un théâtre qui fait arriver sur le plateau des gens qui n'ont pas forcément l'habitude du théâtre, qui viennent avec leur savoir, leur pensée, et qui cherchent à réfléchir autour du théâtre.
Mmh.
Donc,
tu avais déjà une première expérience, toi, l'année dernière.
Oui, hein, une sacrée expérience aussi. Donc, c'est dans le cadre des travaux pratiques de la Vignette, qui est un atelier vraiment particulier et unique, je pense pouvoir le dire. On est entouré de deux amis et deux muses. Il s'agit de Marie-Josée Malis et Judith Balzo, qui sont une philosophe et une dramaturge, et qui nous accompagnent et qui cherchent à nous poser des questions sur le théâtre, sur qu'est-ce qu'on veut au théâtre et finalement qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut pour changer notre vie, changer le monde grâce au théâtre. Et on part de ces questions qui sont des questions qui nous concernent tous en dehors du théâtre. Et le théâtre devient un moyen d'exprimer, un moyen d'expression bien particulier, comme tu le sais. Et on va réfléchir du coup en construisant une pièce. Donc cette année par exemple, il y a une question qui était posée au début d'année, c'est le rapport au spectateur. Le rapport au spectateur. Et ensuite, de cette question-là, ont émergé plusieurs projets, qui sont des projets qui nous appartiennent au début. Elles nous posent des questions, Marie-Josée et Judith, et du coup, on échafaude des projets autour de cette question. Donc cette année, on a une pièce qui va être composée de trois parties. Il y a une première partie qui réfléchit autour de l'idée du bonheur, le bonheur et l'université. Une deuxième partie qui réfléchit autour de l'économie, qui revient un peu aux sources de l'économie, qui reprend des propos d'Aristote et qui a une manière très didactique d'intervenir sur qu'est-ce que c'est l'économie, quels sont les besoins de l'homme, avec une mise en scène très poétique, assez déjantée. Et enfin, notre groupe, on réfléchit sur une question qui est très politique, qui est tournée autour de la Révolution. Donc à la base, c'est un projet que j'ai imaginé en lisant deux livres, notamment George Orwell, Hommage à la Catalogne autour de la Révolution espagnole, Joseph Kessel, Les Rois aveugles autour de la Révolution d'octobre 17, avec aussi un documentaire de Stefano Savona qui s'appelle Tahrir, Place de la Libération, et enfin le Manifeste de Peuple et Culture. C'est un manifeste qui a été écrit par des maquisards dans le Vercors
D'accord, ça y est, je vois.
En 1945. Et Du coup, c'est un manifeste qui est d'une beauté extraordinaire parce que c'est des résistants du coup, qui sont rejoints dans ce maquis, donc qui est pas loin de Grenoble. Et comme vous le savez, dans la résistance, c'était ni le fait d'une classe prolétarienne, ni le fait de la classe bourgeoise. C'était des gens qui venaient de tous les milieux de la société.
Et de diverses horizons politiques.
Et de diverses horizons politiques, absolument. Mmh. Et du coup, des gens qui se côtoyaient jamais dans la société de 1945. Mmh. Les artisans ne rencontraient pas les ouvriers, qui ne rencontraient pas les ingénieurs, qui ne rencontraient pas les étudiants. Ou du moins, c'était des rencontres qui étaient toujours organisées dans le cadre d'échanges, on va dire, organisés par la société. Donc, c'était jamais des vraies rencontres. Et ces personnes-là, elles se sont retrouvées dans ce maquis de Vercors. Et autour du combat de libération qui a eu lieu, elles ont réfléchi à ce qu'elles avaient d'humain en fait en commun. Et elles se sont rendues compte que la société divisait les gens absolument artificiellement. Mmh. Et c'était nécessaire au sortir de 45 de reconstruire une société sur d'autres bases. Ils venaient de vivre 4 ans dans un maquis et ils pouvaient pas recommencer comme avant. Et du coup, ils ont laissé un témoignage qui est absolument magnifique où chaque, on va dire, catégorie socio-professionnelle donner un témoignage de son expérience et sa volonté de changer les choses vers une culture commune. Une culture commune qui soit un instrument de langage, qui est l'instrument de langage, de communication, qui leur permette à tous de refonder une société, ou du moins de changer la leur. Et ça a débouché sur une association qui est Peuple et Culture, qu'on connaît encore aujourd'hui, et qui est une association vraiment très belle. Donc ça, c'était notre point de départ. On est parti de ça. Un manifeste, l'histoire. On a réfléchi à qu'est-ce que nous apportait cette histoire des résistants qui n'a finalement pas débouché parce qu'elle a été prise de court par toutes les volontés politiques, conservatrices qui ont finalement annihilé beaucoup des projets qui étaient mis en scène par Peuple et Culture.
Qui l'ont transfiguré.
Exactement. Et du coup, on a essayé de réfléchir à incarner ces voix dans ces manifestes pour dire que l'histoire a vraiment beaucoup de choses à nous apporter pour notre propre révolution, pour les changements qui sont à venir. Et du coup, on a fait ce travail de, comme on disait, d'historien de l'imaginaire, pour d'abord essayer de retrouver la réalité qui était la leur, parce que les mots qui nous sont transmis, c'est des mots qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même réalité. Et les mots de communisme, les mots de politique, ne serait-ce que ça, de parti. Et du coup, on a réfléchi sur tout le travail qu'il y avait à faire derrière chaque mot pour reprendre un travail d'historien, même si on n'est pas des historiens, justement. Mais le travail qui est nécessaire derrière chaque pièce, même de théâtre, d'arriver à retrouver le sens des paroles et à le restituer avec un sens qui est notre sens, mais qui ne trompe pas le sens qui était donné au début.
Moi, j'ai une question à vous poser pour que tout le monde puisse s'exprimer. C'est comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Parce que ce n'est pas une chose facile de travailler ensemble, surtout que c'est votre première expérience théâtrale. Pas toi, je sais, mais les uns et les autres. Vous pouvez nous parler un petit peu de comment est-ce que vous avez abordé ce travail ? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Et comment est-ce que vous avez abordé ce spectacle ?
Je peux déjà dire qu'on a beaucoup débattu. Il y a eu beaucoup de débats sur beaucoup de sujets différents. Après,
il faut bien parler devant le micro. Ouais. Soyez à l'aise. Allez, quelqu'un d'autre ? Une autre réaction ?
On peut déjà dire que c'est Robin qui nous a proposé ce sujet. Et il y avait d'autres sujets aussi. Il y avait le sujet du bonheur et le sujet de l'économie. Mais nous, on a été plutôt intéressés par le sujet de Robin. Du coup, on a commencé à parler ensemble, à réfléchir ensemble sur ce que c'était le manifeste, sur les paroles qu'on devait incarner et qu'on ne comprenait pas forcément au début. Mmh. Du coup, on a eu du mal. On a eu plein de débats sur ce qui s'est passé. On a beaucoup lu le manifeste. On l'a repris plusieurs fois. Et ensuite, Marie-Josée, elle nous a proposé ce roman de Tchevengour. Elle a fait un lien entre le manifeste et ce qui se passe dans le village de Tchevengour. Et
est-ce que tu peux nous en parler un peu du coup de ce roman de Platonov ?
Mais c'est un roman qui parle d'un village, un village en Russie.
Ça a été écrit en quelle année ?
En 1926. Oui. Et dans ce village, il y a un personnage très intéressant qui s'appelle Alexandre Dvanov, qui part à la recherche de l'idéal du communisme. Et il traverse la Russie avec les steppes et les paysages. Il a plein de rencontres. Il a rencontré Kopionkine. qui est avec sa force prolétarienne, son cheval. Et finalement, ils arrivent dans ce village, dans Tchevengour, où ils rencontrent Tchepourny, qui est un personnage particulier, qui n'a jamais lu Marx, qui n'a jamais eu des connaissances du communisme, et qui a construit, qui a inventé le communisme à Tchevengour. Et ensuite, ils essaient de... Enfin, ils vont faire table rase de ce qui était avant.
Du passé, faisons table rase.
Ouais.
Platonov, c'était plutôt un écrivain, plutôt un archisan, si je ne me trompe pas.
Oui, alors après, on met beaucoup de catégories sur les auteurs. Lui, c'est un auteur... Je pense qu'on aurait du mal à catégoriser. En effet, il est anarchiste parce que le communisme dont on parle, c'est un communisme qui est absolument sans État. C'est la première des choses qui nous est venue à l'idée, c'est qu'il fallait sortir l'idée du communisme. Exactement. Et du coup, comme l'a dit Adina, en effet, ils sont dans une réinvention du communisme. Une réinvention qui est très belle parce que très simple. Ils partent d'un seul désir, qui est le désir de créer quelque chose en commun. De réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de commun qui soit juste uniquement basé sur le désir d'aide de l'autre. Et alors c'est comme tu l'as dit, c'était des gens qui, même pas des prolétaires parce que c'était des gens de la campagne, des ruraux, des moujiks, et du coup ils n'ont aucune connaissance théorique. Et
c'est le lumpen prolétariat dont parlait Bakounine.
Exactement. Et du coup ils réfléchissent de façon très belle, très simple à ce que c'est pour eux de créer quelque chose, de créer ce qu'on appellerait peut-être une espèce de machine organique où chaque être humain organise sa vie en fonction de l'autre. Mmh. Et alors du coup, c'est sous cette idée qu'il redécouvre le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Parce qu'on ne peut plus faire du travail, on ne peut plus reprendre le travail tel qu'il nous l'a été donné, sachant que c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, voilà, tel qu'il la pense. Du coup, on arrête tout, on laisse le soleil travailler jusqu'au moment où on découvre que le travail, finalement, il y a une nécessité pour l'homme de travailler, mais un travail qui va être motivé par un tout autre désir, qui va pas être le désir d'être un pion dans un rouage dont on ne verrait pas la fin, mais travailler, même du travail qui serait jugé comme inutile. Par exemple, lorsqu'ils partent en voyage, ils pensent à l'autre qui est parti, ils vont faire des œuvres d'art. Mmh. Ils vont chercher des inventions, même si ça marche pas, c'est pas grave, parce que le désir derrière, porté par l'amour de l'humain, en fait, et c'est ça qui est extraordinaire et qui pourrait nous servir de leçon et ce qu'on aimerait mettre en scène.
Tu parlais de travailler ensemble. Comment ça s'est passé, vous, ce travailler ensemble? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Comment ça s'est passé, déjà, au niveau de l'écriture? Comment ça s'est passé au niveau de la mise en scène? Sachant que le milieu théâtral, ce n'est pas quelque chose que vous connaissiez spécifiquement. Ce n'est pas votre spécialité. Exprimez-vous devant le micro. On ne va pas vous manger.
Bah d'abord, on devait sélectionner des parties du texte de Tchevengour on a repris tous les passages qu'on trouvait intéressants pour pouvoir les adapter sur scène, pour se dire qu'est-ce qu'on peut en tirer sur scène, qu'est-ce qu'on peut et puis on a beaucoup relu les passages. On a vraiment discuté du sens, parce qu'on voulait vraiment s'approprier le sens, vraiment comprendre ce qu'on porterait. Et du coup il y a eu vraiment une espèce de travail de défrichage, c'est un peu dit bizarrement, mais
Robin, tu vas nous rappeler comment s'appelle le spectacle?
Alors le spectacle s'appelle D'autres nous garderont en mémoire. C'est un vers d'un poète grec qui s'appelle Sappho.
Une poétesse,
oui. Et qui résume un petit peu la conception du passé. C'est un vers très beau qui donne en fait une confiance envers l'avenir. Il dit voilà, même si ce qu'on a fait, on ne l'aura jamais fait pour rien, car finalement la mémoire qu'on est en train de créer par nos actes politiques, poétiques ou autres, va être repris par ces autres. Et ces autres, finalement, c'est nous qui reprenons cette mémoire pour la rendre vivant et créer de nouveau.
Ça se passera donc le 31 mai à la Vignette. À quelle heure?
Alors c'est à 19h. Et donc, comme j'ai dit au début, c'est en trois parties. Il y aura trois pièces.
Tu es venu avec une musique, si je ne me trompe pas.
Oui.
Qui est dans le spectacle.
Qui est dans le spectacle. Alors du coup, c'est une musique d'Emir Kusturica. Et qui, finalement, les gens du voyage, c'est un petit peu ça aussi, les Tchevengouriens, c'est aussi des gens du voyage et joyeuses.
Voilà, ben merci de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau de Vendredi Théâtre. Ben, le 31 mai, on y sera à la Vignette. Vendredi Théâtre, c'est terminé. À la semaine prochaine pour l'actualité théâtrale sur Montpellier.
Cana cara,